Bonjour à tous. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, l'intelligence pas artificielle de la philosophe Catherine Malabou. Le cerveau, auquel elle consacre aujourd'hui un essai Repentance, les métamorphoses de l'intelligence. Cet essai qui paraît en ce moment au PUF. Elle sera notre invitée, Catherine Malabou, dans la deuxième partie de l'émission à partir de 12h55, soit après le journal d'Antoine Mercier. Avant cela, la Garimania, le retour d'une figure de la littérature, Romain Gary. Il s'inventait, le voici aujourd'hui réinventé, raconté par nos deux invités, le romancier ex-joueur de hockey François-Henri Désérable et le touche-à-tout Pierre Bayard, professeur de littérature, écrivain et psychanalyste. Ils sont avec nous jusqu'à 12h30, c'est-à-dire tout de suite sur France Culture ou plus tard sur franceculture.fr.
Grande table. Olivia Gesbert.
Après Évariste, portrait du Rimbaud des mathématiques mort à 20 ans, Évariste Galois, il consacre à l'auteur de La promesse de l'aube son deuxième roman, un certain monsieur Piccheni, chez Gallimard. Hommage déjanté à celui qui lui permet d'avoir son bac sans rien glander, au romancier dont les mots ont fait écho et suscité avec Belle du Seigneur sa vocation d'écrivain. Bonjour François-Henri Désérable.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Désérable, le désirable, un nom d'écrivain qui vous prédestinait ou vous prédestine tout court à un destin grandiose?
Bon, je sais pas, mais je n'ai pas eu besoin, comme Romain Gary, de prendre un pseudonyme. Il s'appelait Roman Katsef et il trouvait que, enfin, sa mère trouvait que ce nom n'était pas un bon nom d'écrivain. À la limite, s'il avait été un violoniste virtuose, ça aurait été. Et c'est pendant la guerre qu'il a trouvé ce Gary qui veut dire brûle. Et après, il s'est renouvelé avec cet Ajar qui veut dire braise en russe.
Le vôtre, en tout cas, de nom, de patronyme, ne vous déplaît pas? On peut interroger le FH à vos initiales, votre prénom?
J'aime bien mon nom, mon prénom, je le trouve un peu ancien régime. Et mon premier livre, c'était sur des figures de la Révolution française. Et un libraire m'a dit, quand j'ai vu votre livre en librairie, avec votre prénom, François-Henri, et votre nom Désérable, j'ai cru que c'était la réédition d'un ouvrage oublié d'un académicien du XVIIIe siècle.
Et ça, vous le racontez dans un certain monsieur Piccheni, dans ce roman que vous signez pour la rentrée chez Gallimard. Ce nom, donc, vous faites avec, mais vous ne pouvez pas dire jamais. Peut-être qu'un jour, vous prendrez un pseudo.
Peut-être que j'en ai déjà pris un et que j'écris une œuvre parallèle sous un autre nom.
Et alors?
Écoutez, quelqu'un dévoilera la supercherie après ma mort.
Vous fonctionnez beaucoup dans ce roman, justement, à coup de « et si ?» pour essayer d'imaginer et raconter ce que fut la vie de ce monsieur Piccheni. À vos côtés d'abord, Pierre Bayard, auteur de « Il était deux fois Romain Gary » en 90, un des premiers essais, une des premières études sur le romancier diplomate facétieux, où vous développiez une approche psychanalytique du personnage. Bonjour à vous, Pierre Bayard.
Bonjour.
Avec un intérêt particulier pour une figure que vous devez tout de suite nous présenter, celle du D-Book. Qui est cet esprit malin?
Alors dans ce livre, je m'attachais également à Piccheni, qui m'avait frappé comme beaucoup de lecteurs et d'admirateurs de Romain Gary, et je le rattachais à une figure du folklore de l'Europe de l'Est, en particulier de la Lituanie, qui est celle du D-Book. Le D-Book, c'est un fantôme qui revient hanter un vivant. Il s'implante à l'intérieur, il occupe son psychisme et surtout il se met à parler à la place de la personne. Donc si tout à coup vous avez quelqu'un en vous qui se met à parler avec une voix masculine sans que vous puissiez l'arrêter, ne vous inquiétez pas, c'est tout simplement un D-Book, un fantôme, un ancêtre qui s'exprime. Et Piccheni, cette très belle figure de la promesse à laquelle François-Henri Désérable s'est attaché, fonctionne comme un D-Book puisqu'il demande au Gary jeune, inconnu, dont il pressent qu'un jour il réalisera les vœux maternels et deviendra un grand écrivain, non seulement de se souvenir de lui, mais de rappeler son existence au numéro 16 de la rue Grandet-Poulenka à Vilnius. Et Gary raconte comment, à certains moments, en particulier quand il est dans les médias, quelqu'un parle à travers lui, c'est Piccheni, qui lui rappelle sa promesse, qui lui rappelle qu'il habitait à cette adresse à Vilnius.
ce qu'il fera devant, à la tribune de l'ONU, ce qu'il fera, dit-il, en tout cas Romain Gary, devant Charles de Gaulle, également devant la reine d'Angleterre.
À la télévision américaine.
Mais on n'a aucune preuve, on ne sait pas si cette promesse a vraiment été tenue.
Non, on n'a aucune preuve. Et alors moi, je me suis retrouvé devant cet immeuble, au numéro 16 de la rue Grande-Paulanca. J'ai vu une plaque commémorative en français, c'était marqué « Ici a vécu Romain Gary ». Et je me suis souvenu de cette phrase, et je me suis dit que, vous savez, on dit parfois que la littérature ne peut pas grand-chose, qu'elle ne peut rien contre la finance, contre la toute-puissance des marchés financiers, mais au moins elle peut cela, c'est-à-dire qu'un jeune Français, égaré dans Vilnius, prononce à voix haute le nom d'un homme dont plus personne ne devrait prononcer le nom, que tout le monde devrait avoir oublié, mais que ni les nazis, puisque Gary raconte que ce Piekielny est mort dans un camp de concentration pendant la guerre, ni le temps n'ont réussi à faire complètement disparaître parce qu'un écrivain l'a exhumé de l'oubli. Et j'ai voulu partir à la recherche de ce monsieur Piekielny et je n'ai pas trouvé de traces, comme si derrière chaque coup de crayon dans les archives, il y avait eu un coup de gomme. Alors j'ai commencé à penser que peut-être ce personnage était un personnage de fiction.
Force de la littérature, comme vous dira votre ami Clément, c'est justement peut-être d'offrir à ceux qui ont existé ou pas une postérité. Et c'est vrai qu'on se souviendra surtout des grands noms, des grands auteurs, des grands écrivains, plus que de tous ceux qui ont pu les entourer à un moment ou à un autre.
Oui, Gary raconte que ce Piekielny ressemblait à une souris triste, méticuleuse de sa personne, qui avait presque peur de son ombre. Donc on imagine très bien le genre d'homme qu'il pouvait être. Et cet ouvrage, en quelque sorte, veut rendre hommage aux souris tristes. Et Gary, dans toute son œuvre, essaye de rendre hommage à ces souris tristes.
Pour l'auditeur, je vais rembobiner un tout petit peu le fil. Tout part de là, de cette phrase de la promesse de l'aube que votre cerveau a, on ne sait comment, mémorisée, au numéro 16 de la rue Grande-Paulanca. On dit comme ça? À Vilno, habitait monsieur Piekielny. À partir de cette adresse, vous menez l'enquête, vous cherchez à savoir qui était ce monsieur Piekielny et s'il a vraiment existé. Pas de trace de lui, fin de non recevoir à vos requêtes répétées des archives lituaniennes. Alors vous l'imaginez. Et vous l'imaginez tour à tour barbier, puis vous l'imaginez aussi marié ou peu en amour. Vous l'imaginez occuper ces longues soirées d'hiver à Vilnius en jouant du violon. C'était un défi pour vous d'essayer de retrouver la trace de ce personnage au début. C'est parti quand même d'une affaire sérieuse ou ça a tout de suite été un pari littéraire?
Non, c'est parti d'une affaire très sérieuse. Je suis allé plusieurs fois à Vilnius et j'ai cherché dans les archives, dans le registre du numéro 16 de la rue Grande-Paulanca et j'ai trouvé les noms de Mina Katsev, la mère de Romain Gary, et j'ai trouvé le nom de naissance Roman Katsev. Donc Romain et sa mère ont bel et bien vécu dans cet immeuble, mais je n'ai pas trouvé le nom de Piekielny et je me suis dit, bon, après tout, ce n'est pas parce qu'il ne figure pas dans les registres qu'il n'a pas existé. Moi-même, je vivais à cette époque rue de la Fontaine au Roi à Paris et je sous-louais mon appartement à l'ami d'un ami. Et je me suis dit que si dans 100 ans, il venait à quelqu'un l'idée de chercher qui habitait là à ce moment, on n'aurait pas trouvé de traces d'un certain désérable. Et pourtant, ça ne veut pas dire que je n'ai pas existé. Après, je suis allé chercher dans les archives des camps de concentration. Là non plus, je n'ai pas trouvé le nom de Piekielny et j'ai commencé à douter. Et doutant, ayant lu tous les ouvrages sur Gary, de Gary, à propos de Gary, ne trouvant pas de traces de Piekielny, j'ai lu des ouvrages de fiction que Gary avait pu lire. Et je crois avoir déceler une trace de Piekielny dans Gogol, dont Gary était un grand lecteur.
Et si la postérité, me dit Clément, à qui je viens de lire ce passage, non seulement nous rendait immortels, mais de surcroît faisait que nous fussions les seuls à avoir existé, Gary sort du bureau du général, et sur qui tombe-t-il? Pierre Mendès France et Raymond Aron. Il entre dans une taverne, et qui en sort au même moment? Maurice Druon. Il s'y attable, et qui vient lui parler? Joseph Kessel. Y avait-il seulement des anonymes pour peupler la terre en ces temps-là? Extrait de votre livre, un certain monsieur Piekielny, François-Henri Désérable, Pierre Bayard. Vous l'avez lu ce livre, ce roman?
Et comment? Oui, lu et annoté. J'ai été très, très touché et même ému par ce mélange très, très garien qui caractérise le livre de François-Henri Désérable entre l'humour et l'émotion. On retrouve vraiment le
C'est ça
le
la
ton.
Veine Gary,
c'est
ça la veine d'un Gary.
Oui, je crois que c'est un élément fondamental de l'œuvre de Gary qui m'avait touché dès le départ, qui avait motivé mon attachement pour lui. C'est un écrivain très drôle. Et les écrivains de la Shoah, c'est un des grands noms des écrivains de la Shoah du XXe siècle, sont rarement drôles.
Mais Gary racontait une histoire, il dit que dans le ghetto de Vilnius, un homme avait pris un coup de couteau par un Allemand sur le visage, qui lui avait lacéré le visage, et alors quelqu'un lui avait demandé « Mais est-ce que ça te fait mal ?» Et cette personne avait répondu « Seulement lorsque je ris ». Et Gary disait que l'humour était l'arme blanche des hommes désarmés.
Il y a cette émotion, il y a cet humour, et puis il y a aussi ce caractère d'enquête qu'on retrouve dans d'autres grands livres récents sur la Shoah, où l'écrivain ne se contente pas de travailler l'écriture, mais va sur place ou va dans les archives. Hein. Je pense évidemment à Dora Bruder de Modiano. Je trouve qu'il y a des points communs entre les deux enquêtes à propos de personnages anonymes qui ont disparu dans l'extermination des Juifs d'Europe. Je pense aussi au livre de Jablonka, hein, Histoire des grands-parents que je n'ai pas eu, ou au livre de Mendelssohn, les disparus. Et moi-même, j'ai ressenti une émotion particulière lorsque j'ai vu la page du livre de François-Henri Désérable, où il a photographié les archives de Villeneuve, où on voit les deux noms. Et je pensais à la phrase, le nom de Gary et le nom de sa mère. Et je pensais à cette phrase de Jablonka dans l'histoire des grands-parents que je n'ai pas eu. Lorsqu'il retrouve une trace des archives de sa famille disparue, il dit c'est pour ce moment-là que je suis devenu historien.
Et c'est pour ça que vous êtes devenu écrivain aussi, François-Henri Désérable, parce que cette enquête, c'est vrai que vous la menez, et notamment à Vilnius, pas seulement, Vilnius où habitait Roman Kratsev, futur Romain Gary, et vous racontez une ville totalement métamorphosée avec les années, une ville sans mémoire presque, et notamment sur la question sur les Juifs qui ont habité Vilnius, ces 60 000 Juifs qui ont été radiés de la carte de la ville, exterminés dans les camps, leur présence a complètement été effacée des murs, il en reste aucune trace, ou presque.
Oui. Si un juif ayant vécu dans les années 30 à Vilnius revenait aujourd'hui, il ne reconnaîtrait pas cette ville. Il y avait 106 synagogues avant 1940, il en reste une seule aujourd'hui. Il y avait 60 000 juifs, aujourd'hui la communauté juive est réduite à 1200. Et il n'y a plus de traces du passé juif de la ville, mais parfois il réapparaît à la faveur du temps. Et moi, quelque chose qui m'a particulièrement ému, dans une rue où on avait repeint les façades, la peinture s'est écaillée, et on voit réapparaître les enseignes en yiddish, donc avant la guerre. Et ce ne sont pas seulement les nazis qui ont détruit l'héritage juif de Vilnius, mais également les soviets qui ont parachevé un peu le travail commencé en 1940.
Jusque les pierres tombales de ce cimetière juif, une guide vous montre cela dans Vilnius, sur lesquelles
certaines
vous marchez, parce qu'elles ont été recyclées.
Voilà, elles ont été réemployées pour paver les rues et pour construire des marches. Et alors, lorsqu'on monte certaines marches, on peut voir les traces de noms comme ça, polis par le temps, par des milliers de pas, et c'est absolument émouvant. Ouais.
Enquête difficile quand la mémoire est à ce point-là bafouée, hein, saccagée, Pierre Bayard.
Il y a quelque chose de très fort et de très touchant dans le livre de François-Henri Désérable, ce qu'il raconte un symptôme, il atteint d'une pathologie dont il est peut-être le seul porteur, il fait des crises de sépia, c'est-à-dire qu'il lui arrive de voir le monde à travers un filtre sépia, c'est-à-dire de voir non pas la réalité telle qu'elle est aujourd'hui, mais telle qu'elle fut. Et il y a un passage très fort dans lequel il compare Venise, dans lequel son filtre sépia est atténué, puisque Venise n'a pas beaucoup changé depuis les peintres vénitiens du 18e, à la Lituanie, à Vilnius, c'est-à-dire la Jérusalem du Nord, dans lequel, comme vous le disiez, tout a changé, sauf pour vous, puisque grâce à cette pathologie et à vos crises de sépia, vous pouvez revoir la ville telle qu'elle a été.
Je pense que ce filtre sépia est particulièrement accentué, j'en parlais il y a quelques jours avec un ami, dans ces pays de l'Est, justement, dans ces pays qui ont connu la Shoah et le communisme. Et on a tendance à essayer de déceler les traces du passé antérieur à 1940. C'est un filtre qui est différent selon certaines villes.
À Vilnius, ce jour-là, j'étais pris d'une crise de sépia aiguë, période 1920, dans telle rue où des taxis stationnés en double fil, je me représentais des cochers de fiacre en haute forme et en houppeland. Sur telle place où des touristes prenaient des selfies, je voyais des camelots, des chartiers, des portefaix, des rémouleurs de couteaux. J'avais aussi Louis en sépia entré dans un bar d'où s'échappait l'inégalable flot d'Eminem. J'entendais monter la ritournelle populaire et saccadée, lancinante et lassante d'un orgue de barbarie. Voilà le syndrome sépia qui vous tient, cher Désérable. La promesse de l'aube, une autobiographie romancée de Romain Gary, ou alors une biographie de sa mère. Enfin, une autobiographie, oui, mais non. Vous avez sûrement étudié cette question. Écoutez ce qu'en disait Gary en 1960.
Je commençais par m'en défendre et je me suis aperçu que cela prêtait à malentendu. Je ne me défends pas contre la véracité de l'histoire que je raconte. Je me défends contre l'exactitude de la transposition littéraire que j'ai effectuée. C'est un problème d'honnêteté pour moi que de dire que je ne puis, à 30 ans de distance, à 20 ans de distance, me portait garant de l'exactitude du dialogue des scènes, des instantanés, des physionomies. Je ne puis vraiment dire que c'est une autobiographie parce que précisément le personnage central, ce n'est pas moi, c'est ma mère. J'irai plus loin. Le diplomate français, le consul général de France, et si je puis rappeler tout cela sans paraître vaniteux, le prix Goncourt, le compagnon de la Libération, ce n'est pas moi, c'est ma mère. En réalité, c'est sa volonté prodigieuse qui m'a fait entièrement. C'est une sorte de réalisation d'un caractère et d'une volonté indomptable qui étaient les siens, auquel la vie s'est pliée. La vie semble avoir obéi à ma mère.
Pierre Bayard, qui était cette mère toute puissante? C'est fou, la place qu'il lui accorde, y compris dans ce regard qu'il porte rétrospectivement sur sa vie à travers cette évocation de la promesse à l'instant. Qui était cette mère un peu démiurge, pygmalionne pour lui?
Donc une sorte d'allégorie de la mère juive qui s'est emparée de son fils et même de l'avenir de son fils, puisqu'elle lui prescrit ce qu'il deviendra plus tard. Et comme le dit Bouc, dont j'évoquais tout à l'heure, elle parle à travers Gary. Si vous prenez la promesse de l'aube, vous avez une quantité de passages dans lesquels Gary est porté par la voix de sa mère et tout à coup s'écoute parler avec ce lyrisme de l'Europe de l'Est en ne comprenant pas pourquoi il dit ce genre de choses. Ce qui est très intéressant dans le livre de François-Henri Désérable, c'est que la mère apparaît aussi dans la vie de Désérable, parce que sa propre mère a un peu un côté Nina Cassiou, et en particulier essaie de déterminer votre destin. La mère de Gary voulait qu'il devienne diplomate et grand écrivain. La vôtre tenait particulièrement à ce que vous fassiez une thèse. Où est-ce que vous en êtes dans vos études?
Gary est bel et bien devenu diplomate et grand écrivain, et moi j'avais commencé une thèse que je n'ai pas terminée au grand dam de ma mère. Oui, mais c'est foutu pour maintenant, je ne la terminerai pas. Mais nos mères se ressemblent en ce sens qu'elles nourrissaient de grandes ambitions pour leur fils. Alors la mère de Gary lui a bel et bien assigné un destin, il a coché toutes les cases. Moi, non, je n'ai pas coché les cases que ma mère avait préétablies pour moi.
Vous voulez bien lire cet extrait pour nous, où vous évoquez la figure de la mère de Romain Gary et la figure de votre mère, cette proximité, parce que tout ce livre est aussi prétexte à évoquer votre propre parcours, votre propre vocation d'écrivain, François-Henri Désérable.
Mais revenons à Gary. Est-ce que, parlant de moi, ce n'est pas de lui que je parle? Je crois savoir ce qu'est l'exigence d'une mère. J'avais une Mina Katsef, moi aussi. Seulement celle-là n'empilait pas en esprit des romans comme un marchepied vers la gloire. Une thèse, pensait-elle, m'y mènerait plus sûrement. Mais l'une comme l'autre voulait nous voir leur rendre au centuple ce dont la vie les avait injustement spoliés. Voilà le parallèle que l'on peut établir entre cette Mina Katsef et ma propre mère.
La promesse de l'aube, une autobiographie romancée, dira-t-on, à laquelle vous ajoutez, François-Henri Désérable, un esprit vagabond de l'imagination et votre propre subjectivité aussi, ce qui mathématiquement devrait nous éloigner encore plus de la vérité biographique, mais qui finalement, Pierre Bayard, peut-être nous en rapproche plus que jamais. Est-ce que vous avez le sentiment d'être parvenu à reconstituer une certaine réalité? Qui était Romain Gary? Est-ce que vous, Pierre Bayard, par rapport à tout ce que vous avez étudié, vous avez eu le sentiment de lire des choses qui vous écartaient beaucoup de la perception que vous aviez de cet homme, écrivain, diplomate, ou est-ce qu'au contraire, vous avez retrouvé le Romain Gary que vous aviez trouvé dans vos recherches?
On l'entendait bien dans l'extrait que vous avez diffusé, hein, Romain Gary jouait beaucoup de l'intrication de la fiction et de la réalité, au point que certaines anecdotes qui l'ont rendu célèbre ne correspondent pas à des faits exacts. Je pense par exemple à ce passage à la fin de la promesse de l'aube, où il raconte comment sa mère, pendant toute la guerre, alors même qu'elle est morte, continue à lui envoyer des lettres, parce qu'elle a écrit à l'avance des centaines de lettres qu'elle fait envoyer de façon posthume. Eh bien, l'épisode n'est pas juste, et pourtant il l'est. Parce que par cette allégorie, Gary parvient à exprimer l'amour maternel. Et je crois que l'intrication de la fiction à la réalité, on la trouve également dans le livre de François-Henri Désérable, aussi bien quand il décrit le Piquelny violoniste que dans une formidable émission entre Gary et Pivot, qui a toutes les qualités de l'existence, sauf celle de n'avoir jamais été tourné, ou quand vous rappelez à quel point il est indiscernable aujourd'hui de savoir, quand on va au Château d'If, si Edmond Dantès a existé ou pas. Je crois qu'il y a une force de la littérature que Gary revendiquait, de mentir vrai et de faire revivre le passé et les disparus par l'écriture, ce que l'histoire ne peut pas toujours faire.
Et de citer Boris Vian, cette scène est vraie puisque je l'ai inventée.
Oui, justement, j'allais vous dire que j'aurais pu placer cette scène en épigraphe. Et Gary a beaucoup menti, mais le mensonge, après tout, n'est-il pas une variation subjective de la vérité? Et il a inventé sa vie et il en a fait sa vérité.
Je tiens à préciser qu'à propos du mensonge, hein, parce que c'est quelque chose qui m'a toujours frappé chez Gary, à savoir son héroïsme pendant la guerre, dans ses textes sur cette période, il est plutôt modeste hein, par rapport à ce qu'il a fait, il n'en rajoute pas.
Surtout sur la guerre, oui.
Surtout sur la guerre.
Parce qu'il a été un vrai héros de guerre, et alors, dans La Promesse de l'Aube, il raconte qu'il n'a pas fait grand-chose, voilà. ce qui est faux.
Aviateur, diplomate, romancier, Roman Kratsev, alias Romain Gary, alias Émile Ajar, était-il aussi insaisissable que Pikelny? On va continuer à évoquer cette figure ensemble jusqu'à midi et demi. Cette quête, quand même, prétexte à raconter la vie aussi de Romain Gary. Pour vous, François-Henri Désérable, son ambition littéraire est d'abord celle de sa mère, ses faits d'armes, ses amours, ses Goncourt. Romain Gary parlant de son neveu Émile Ajar. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu dans cet extrait. Émile Ajar, tout juste goncourisé pour la vie devant soi en 75. Quelle farce!
Un homme le connaît bien, Émile Ajar, en tout cas, son oncle, Romain Gary.
Il a une situation psychique à lui qui fait qu'il s'estime qu'il ne peut pas supporter la dépersonnalisation par un excès de notoriété. C'est un garçon d'une extrême gentillesse et d'une extrême douceur, un des plus gentils qu'on puisse imaginer. C'est ce qu'on appelle un marginal.
Pourquoi, à votre avis, après avoir accepté que son livre soit présenté puis primé, il a refusé récemment le prix?
Il s'était désisté l'année dernière de tous les prix. Je pense que c'est un sentimental, qu'il a eu un rapport avec son éditeur qui a fait qu'il a eu probablement l'impression de poignarder son éditeur dans le dos au début, en premier temps. Puis il a paniqué en deuxième temps, il a repris sa décision première qui est de refuser. Il a dit, mettez-vous à la place d'un garçon jeune, qui a un homme proche de sa famille, qui a atteint une certaine notoriété littéraire dans des conditions publicitaires, dans des conditions de produit, un produit Romain Gary qui ne lui plaît pas. Tout ce qui se passe aujourd'hui prouve que lorsqu'on veut préserver sa vie privée, on a tort de publier. À partir d'un certain degré de notoriété, les types deviennent prisonniers de leur image.
Que croyez-vous qu'il va devenir d'Émile Ajar?
Tout ce que je voudrais, c'est qu'il continue à écrire.
Pierre Bayard, tout le monde était vraiment dupe à l'époque, en 75?
Totalement. Moi, je lisais Ajar. Hein. J'ai connu Ajar avant Gary. Hein. J'étais passionné d'Ajar avant de découvrir et absolument tout le monde s'est fait duper. Parce que ce qui est tout à fait extraordinaire dans cette histoire, c'est pas seulement le fait qu'il crée, après avoir inventé des fictions, qu'il crée un personnage et qu'il le fait incarner comme un golem, c'est qu'il invente deux écritures. Il y a des différences sensibles entre l'écriture Gary et l'écriture Ajar. Et c'est ça qui est tout à fait extraordinaire.
Et du coup, François-Henri Désérable, vous êtes plutôt Ajar ou plutôt Gary?
Je pense qu'il y a trois chefs-d'œuvre chez Romain Gary. La Promesse de l'Aube, La Vie devant soi, donc La Promesse de l'Aube, Romain Gary, La Vie devant soi, Émile Ajar, et puis La Propre Vie de Romain Gary, qui est un chef-d'œuvre à part entière. Donc je ne pourrais pas trancher entre les deux.
Oui, j'adhère totalement à cela. Moi, quelque chose qui m'a beaucoup touché dans cet écrivain dès le départ, c'est qu'il n'y a pas de nécessité, comme chez d'autres, de faire une distinction entre la vie et l'œuvre. Vous connaissez tous ces écrivains qui ont des casseroles pendant la guerre, etc. Alors on nous explique, oui, mais vous savez, il y a la vie et l'œuvre. Là, on peut prendre l'ensemble, et l'ensemble est admirable. La personne est admirable dans l'ensemble de ses comportements, et l'œuvre l'est aussi. Et il y a quelque chose de rassérénant pour ceux qui se sentent humanistes à la Gary, de voir qu'on peut prendre l'ensemble de la vie et de l'œuvre, contrairement à d'autres.
Vous évoquiez à l'instant cette rencontre, ce tête-à-tête entre Bernard Pivot, dans apostrophe avec Romain Gary, qui peut-être Pivot, si vraiment cette rencontre avait eu lieu, aurait pu déceler plus tard les traces de ce double visage, de cette triple vie. Une écriture très fluide, gracieuse, séduisante, relevant plutôt du patinage artistique, figure libre avec triple saleté. plateau historique et pirouette pleine d'humour. Vous voilà, en tout cas vous, François-Henri Désérable, adoubé en cette rentrée littéraire par Bernard Pivot himself, Pivot donc le meneur d'apostrophe, qui raconte et s'amuse beaucoup de ce passage où vous inventez ce tête-à-tête entre ces deux monstres de la littérature, le grand lecteur et le grand écrivain, se rencontrant.
J'ai souvent entendu Pivot dire dans des interviews que son plus grand regret avait été de ne pas avoir consacré un numéro spécial à Romain Gary du vivant de Gary, puisqu'il en a consacré un après la mort de Gary en juillet 1981, je crois, dans lequel Paul Pavlovitch est venu dévoiler l'affaire Ajar. Et donc j'ai voulu lui faire en quelque sorte ce cadeau, et j'imagine ce numéro d'apostrophe où Gary est l'invité principal, et puis il y a un invité surprise qui débarque à la fin, le jeune Patrick Modiano, récent lauréat du prix Goncourt. Et certaines personnes, lisant cette scène, m'ont dit « Mais bien sûr, je me souviens très bien avoir vu ce numéro d'apostrophe qui n'a jamais existé. »
En attendant en décembre la sortie de La Promesse de l'Aube d'Éric Barbier avec Pierre Ninet en Romain Gary et Charlotte Gainsbourg pour jouer sa mère. Attendez, écoutez un extrait.
Avec l'amour maternel, la vie vous fait à l'aube une promesse qu'elle ne tient jamais. Après cela, chaque fois qu'une femme vous prend dans ses bras et vous serre sur son cœur, ce ne sont plus que des condoléances.
Mon fils, je veux que tu sois célèbre de ton vivant. Un jour, tu seras Victor Hugo. Tu seras ambassadeur de France. Mon fils, il ne t'arrivera rien. Tu vas réussir. Tu vas gagner. Parce que je ne t'ai pas appris autre chose. Et le monde reconnaîtra ton talent.
Je me fis la promesse de redresser le monde et de le déposer à ses pieds.
En attendant ce film, proche du biopic qui sera donc en salle en décembre, il y a eu aussi Le mariage en douce d'Ariane Chemin, enquête sur la relation Gary-Jane Seberg l'été dernier, un carton en librairie. Et maintenant votre livre, romancé cette histoire, François-Henri Désérable, de ce monsieur Pichelny que vous retracez aujourd'hui pour Gallimard. Pierre Bayard, comment expliquer cette Gary-mania ?
Je crois tout simplement qu'il commence à être mis à sa juste place. C'est un écrivain qui a été longtemps méprisé par les universitaires. Le temps fait son office, les écrivains rentrent dans leur véritable place dans le canon littéraire. Et je crois que ça va être de plus en plus le cas de Romain Gary. Les thèses se multiplient en France et à l'étranger. Et j'en suis vraiment très heureux.
27 ans après votre « Il était deux fois Romain Gary », dont on peut espérer du coup une réédition, parce qu'il est épuisé pour l'instant, introuvable ce livre. Cette mode du biographisme, et je terminerai là-dessus, le fait de s'intéresser plus peut-être à la vie des auteurs qu'à leur œuvre même. Vous, on est entre les deux, hein, bien sûr, François-Henri Désérable, mais vous la comprenez, Pierre Bayard ?
Ah oui, moi j'ai toujours considéré les écrivains comme des compagnons de vie, de réflexion. Je ne peux pas m'intéresser à un écrivain comme Céline, par exemple. Pour moi, c'est impensable. Je n'ai jamais séparé la vie et l'œuvre, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai toujours été passionné par Gary. Un écrivain, c'est un compagnon de vie. Donc il faut qu'il me plaise, et autrement je ne le fréquente pas.
Vous êtes pour Sainte-Beuve.
Voilà, totalement.
Et sa vie c'est son œuvre, et son œuvre c'est sa vie.
Oui, les deux se confondent, totalement.
Merci beaucoup à tous les deux. Merci François-Henri Désérable, un certain monsieur Pichelny chez Gallimard vient de paraître pour cette rentrée littéraire. Merci à vous mille fois Pierre Bayard d'être venu discuter avec nous de la figure de Romain Gary.